Déjà vu. Je regarde hier ces images d'actualité à Strasbourg comme hypnotisé. Ça se passe en l'occurrence à l'endroit même où je me trouvais la semaine passée. Le nombre de morts, de blessés, la traque qui se poursuit pour retrouver le suspect. Ces images de peur, de tristesse, de témoignages à chaud. Ces images de commentaires qui vont très vite, peut-être un peu trop. C'est pas une comparaison que je fais consciemment avec tout ce que ces dernières années on a vu, on a vécu, on n'a pas vaincu. Pas un parallèle non plus. Ni même un écho, c'est ce qu'on appelle un déjà-vu. Vous savez, cette sensation presque irréelle, cette inquiétante familiarité face à un événement qu'on n'a pas forcément connu. Moi, je vais vous dire, je vais être honnête, j'y pensais plus. Ce matin, je voulais écrire sur la révolte de 68 à 2018, quand soudain, comme un retour du refoulé, voilà que des images viennent se superposer, comme si l'actualité de cette fin d'année faisait surgir de façon détournée ce que tout le monde avait tenté d'oublier, comme s'il se rappelait à nous ces événements des dernières années, comme s'il nous disait, par le truchement d'une étrange impression, qu'ils nous ont marqués bien plus qu'on ne s'en doutait, au point de les reconnaître d'emblée et de jurer qu'on sait exactement ce qui va désormais se passer. Ou alors peut-être que c'est l'histoire qui se répète, qui sait.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi sera fait l'avenir pour mon invité d'aujourd'hui? Il est historien et depuis le succès planétaire de Sapiens ou de Homo Deus, il est considéré par beaucoup comme une sorte de prophète. Son nouveau livre 21 leçons pour le 21e siècle a paru début novembre chez Albin Michel. C'est déjà un phénomène de librairie. Bonjour Yuval Noah Harari. Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, se pourrait-il que l'histoire soit déjà écrite?
Non, l'histoire n'est pas déterministe. Ça n'a jamais été le cas par le passé.
If you look at something like the rise of Christianity, for example,
si vous regardez, par exemple, la montée de la chrétienté, c'était vraiment une surprise totale. Si vous aviez dit aux Romains au IIIe siècle que cette petite secte juive de l'Orient prendrait l'Empire à revers, ils penseraient que c'était quelque chose de totalement ridicule. Et en 1914, si vous aviez dit aux Russes que en moins de trois ans, les bolcheviks de Lénine prendraient l'Empire, ils auraient dit que vous étiez complètement fou.
Et pourtant, à vous lire, on a l'impression, Yuval Noah Harari, que parfois l'histoire se répète.
Yeah, sometimes history repeats itself to some extent.
L'histoire se répète dans une certaine mesure.
But never in the same way.
Mais jamais de la même manière.
I don't think you can predict the future.
Je ne pense pas que l'on puisse prédire l'avenir en regardant simplement les exemples du passé. Ce que l'histoire nous permet, c'est de penser de façon plus créative à l'avenir, voir plus de possibilités de ce qui pourrait se produire.
Justement, au fond, à la fin de quelle fiction collective est-ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui?
On est témoin de l'effondrement de tous les grands récits que nous avions créés au XXe siècle. Il y a trois grands récits au XXe siècle. Le fascisme, le communisme et le libéralisme. Et les trois s'effondrent l'un après l'autre. Et maintenant, nous sommes témoins de l'effondrement ou de la perte de confiance dans le dernier récit, celui du libéralisme. Et nous entrons dans une ère de zéro récit, un vide où personne n'a de vision pour l'avenir. Et la seule chose que l'on obtient, c'est des fantasmes de nostalgie au sujet du passé, avec le nationalisme, avec la religion par exemple.
C'est une lecture fascinante. Quand est-ce que vous avez compris que tout, en réalité, n'était que fiction?
Non, pas tout, bien sûr. Tout n'est pas récit. Il y a de la réalité. Et peut-être que la chose la plus importante au sujet de la réalité, c'est la souffrance, le malheur. Les gens souffrent réellement. Les animaux souffrent réellement. La Terre passe par une crise écologique. Ce n'est pas un récit, ce sont des réalités. Mais les réalités sont formées par les récits et les mythes auxquels les gens croient.
Comment vous expliquez, Yuval Noah Harari, cette désaffection des peuples aujourd'hui pour la démocratie, ce repli identitaire généralisé, dont l'élection de Donald Trump, le Brexit, la montée de l'extrême droite sont autant d'illustrations?
En partie, c'est l'oubli. Les gens prennent pour acquis les avantages de la démocratie libérale parce qu'ils ont oublié qu'ils sont nés après l'âge terrible des dictatures au milieu du XXe siècle. Et ils ne se rendent pas compte des risques auxquels nous devons faire face. Et en partie, c'est parce que ce que je viens de dire au sujet de la perte de vision quant à l'avenir. Et psychologiquement, c'est extrêmement difficile lorsqu'il n'y a pas de vision pour l'endroit où nous serons d'ici 20 ou 30 ans d'aujourd'hui. Et malheureusement, personne aujourd'hui au sein des systèmes politiques, que ce soit à gauche ou à droite, n'est capable d'offrir une vision qui ait un sens pour le lieu où sera le genre humain en 2050. Et cela crée une crise psychologique collective qui pousse les gens se tenir à ces récits anciens de la nation, de la religion.
Vous décrivez justement une révolution qui est en marche, une révolution silencieuse liée aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle. C'était tout l'objet d'Homo Deus, votre dernier livre. En quoi le perfectionnement de l'intelligence artificielle va-t-il bouleverser l'économie mondiale, à votre avis, notamment en ce qui concerne l'emploi ?
Un des développements qui fait le plus peur, auquel on ne fait pas suffisamment attention, c'est la révolution de l'intelligence artificielle et la façon dont cela va transformer l'économie et le marché de l'emploi dans la décennie à venir. Nous ne savons pas si les gens seront capables de se former suffisamment rapidement pour pouvoir acquérir ces nouveaux emplois. Parce que la révolution de l'intelligence artificielle ne sera pas, par exemple, une seule révolution d'un seul coup, à la suite de laquelle le marché du travail va se calmer et acquérir un nouvel équilibre. Ça va être une cascade de ruptures constantes, toujours plus grandes les unes que les autres. Donc, il faut se réinventer à 40 ans, et puis à nouveau à 50 ans, et à nouveau à 60 ans. Et il n'est pas clair si les gens ont l'équilibre psychologique pour pouvoir le faire.
Dites-moi, c'est un futur assez trouble quand même, ça fait un petit peu peur. Depuis ce qu'ont été les fantasmes de la science-fiction jusqu'à l'avenir que vous prédisez ici, ça fait un peu le bourdon, non ?
C'est pas simplement des malheurs pour l'avenir, il y a aussi des occasions extraordinaires, beaucoup de potentiel dans ces nouvelles technologies. Si vous pensez par exemple aux voitures autonomes, aujourd'hui, chaque année, 1,25 million personnes sont tuées dans des accidents de voiture. C'est deux fois le nombre de gens qui sont tués par les guerres, le terrorisme, le crime, tout cela mis ensemble. Et tous ces accidents de voiture sont causés par des erreurs humaines. Quelqu'un qui boit de l'alcool et qui conduit, quelqu'un qui texte sur son téléphone pendant qu'il conduit. Et si on passe à des voitures autonomes, on va sauver plus d'un million d'êtres humains par an. Parce que, vous savez, les voitures autonomes ne boivent pas d'alcool et ne perdent jamais de vue ce qui se passe sur la route. Donc, il y a quelques occasions extraordinaires ici. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas arrêter cette révolution de l'intelligence artificielle.
Mais vous, est-ce que le futur vous fait rêver ?
Yeah, it causes me both dreams and nightmares.
Ça me procure à la fois des rêves et des cauchemars.
You know, like with every
vous savez,
new big technology,
avec chaque nouvelle technologie, c'est
it
pareil.
Comes with wonderful
ça vient avec des potentiels extraordinaires et aussi des potentiels terribles, horribles.
Celle qui est dans le rêve et dans le cauchemar, qui est humaine, trop humaine, terriblement humaine dans cette émission, vous la connaissez peut-être, Yuval. C'est la culture. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ? Queen, roi du stream, Universal vient d'annoncer que Bohemian Rhapsody de Queen, le groupe de Freddie Mercury, est devenu la chanson du XXe siècle la plus écoutée en ligne, totalisant plus de 1,6 milliard d'écoutes sur toutes les plateformes confondues. Ironie, en 1975, EMI, la maison de disques de Freddie Mercury, avait refusé de sortir en single le titre, composé comme une odyssée glam rock en 6 actes, à cause de sa longueur, 6 minutes et des nombreux breaks qui le ponctuent. Une scène à revoir dans le biopic que vient de consacrer à l'icône Bryan Singer, Galileo, magnifico.
Je veux pas.
Tu veux.
Je veux pas.
Tu veux pas.
Je veux.
Tu veux pas.
Je veux.
Tu veux pas.
Quand je dis je veux, ça veut dire je veux.
On a tous droit au meilleur de l'animation. Le Forum des images à Paris inaugure aujourd'hui la 16e édition de son très précurseur Carrefour de l'animation, alliant classique et inédit, poétique et politique. L'événement met notamment à l'honneur Richard Williams, animateur des Contorsions, du Roger Rabbit, de Zemeckis ou du Déhanché de la Panthère Rose. Jusqu'au 16, on y célèbre aussi l'anniversaire des 50 ans des Shadok et on y voit le château de Cagliostro, le premier film inédit en France de Hayao Miyazaki. Oh oui.
Ça raconte Sarah, c'est l'histoire d'une passion amoureuse entre deux femmes qui ne se connaissent pas au début du roman.
C'est ce qu'on appelle un grand chelem, ça raconte Sarah, le beau premier roman de Pauline Delabroix Allard, a remporté hier le prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2019, chronique incantatoire d'une passion brisée entre deux jeunes femmes, sensation incontestable de cette rentrée littéraire. Le roman, paru aux éditions de Minuit, avait déjà raflé une multitude de récompenses, dont le prix des libraires de Nancy et le prix du style 2018. Viva Sarah. Mercredi de déjà-vu, séance plein la vue, car aujourd'hui dans les salles on se plonge dans une affaire de famille, nouvelle livraison délicate, majestueuse de Kore-eda, palme d'or du dernier festival de Cannes. On peut réécouter l'interview que le cinéaste japonais nous avait donnée en mai dernier au festival de Cannes. Et sinon, avec les marmots, on profite de Pachamama, aujourd'hui la fable écolo en terre inca réjouissante et choupignou, signée Juan Antin. L'historien et intellectuel Yuval Noah Harari, invité de Boomerang ce matin, et j'aimerais qu'on revienne ensemble sur vos interprétations de l'évolution de l'humanité. Parce que c'est passionnant. Comment l'homme d'Homo sapiens s'apprête-t-il à devenir ce que vous appelez un Homo Deus, Yuval?
Homo Deus means, I mean, Homo sapiens is
Homo
wise
sapiens,
man.
C'est l'homme sage.
And Homo Deus,
et Homo Deus
is God,
ça signifie l'homme Dieu.
Which means that literally,
ce qui signifie littéralement, c'est que nous sommes en train de monter au niveau des dieux.
We are acquiring abilities,
nous acquérons des capacités qui traditionnellement que l'on semblait que l'on croyait être des capacités divines, des compétences divines, créer la vie par exemple.
Just like in the book of Genesis,
comme
in the
dans
Bible,
le livre de la Genèse, dans la Bible, Dieu a créé les animaux, les plantes et les êtres humains selon sa volonté. Aujourd'hui, nous apprenons comment concevoir et créer des plantes, des animaux et même des êtres humains selon nos propres volontés. Et nous pouvons peut-être même faire quelque chose qu'aucun Dieu n'a réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire créer des formes de vie totalement inorganiques, non organiques.
L'hypothèse de cet Homo Deus, elle est aussi fondée en partie sur une autre hypothèse, qui est celle que l'être humain ne serait au fond qu'un algorithme. Comment est-ce que vous pouvez en être aussi certain, Yuval Noah Harari?
I'm not sure.
Mais j'en suis pas sûr.
I'm not a specialist
je
ne
suis pas
un
spécialiste de neurosciences, des sciences du cerveau. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas au sujet des êtres humains.
Especially our consciousness, our mind.
Notre conscience, notre esprit, nous n'en savons pas grand-chose.
But our understanding
mais notre compréhension
of the human body and the human
du
brain
corps humain et du cerveau humain
has reached such a level
est arrivée à un tel niveau
that we are able to
que nous sommes capables de comprendre
most of the decisions
la plupart des décisions
that most people
que
take
la plupart des gens prennent
during their life
durant leur vie.
And manipulate them
et nous pouvons les manipuler
in unprecedented ways.
De façon sans précédent.
So even if there is
donc même s'il y a
a theoretical possibility
une possibilité théorique
of, say, complete freedom,
de totale liberté, disons,
freedom is not something
la liberté
that you
n'est
have.
Pas quelque chose que vous avez.
Freedom is something
la liberté
you need
est quelque chose
for.
Pour laquelle vous devez lutter.
And the vast majority
et la grande
of
majorité des
make,
décisions faites par les gens
they are not the result
ne
of
sont
free
pas
will,
le résultat de leur libre arbitre,
but the result
mais
of
le résultat
interaction
d'une interaction
all kinds of
entre tout type de processus biochimiques au sein de leur corps
and external influences
et d'influences extérieures de la société et de la culture.
En fin de compte, qu'est-ce qui nous rend humains pour vous?
The fact is, we don't know.
Eh bien, nous ne savons pas.
Our understanding
notre compréhension
of, especially the human mind,
de l'esprit humain
is extremely limited.
Est extrêmement limitée.
We are becoming better
nous devenons
better
meilleurs,
at understanding
nous améliorons
the brain.
Sur la façon dont nous comprenons le cerveau.
But the brain isn't the
mais
mind.
Le cerveau, ce n'est pas l'esprit.
The brain is a
le cerveau est une entité physique
of neurons
de
and
neurones,
synapses,
de synapses, de produits chimiques
which we understand better
que
and better.
Nous comprenons de mieux en mieux. Mais l'esprit, est un flux d'expériences subjectives,
like pain and pleasure, la douleur, love and
le plaisir, l'amour, la haine.
We really still are far from understanding.
Nous sommes très loin de comprendre
how some electrical
comment quelques orages électriques au sein du cerveau, avec des milliards de neurones qui tirent de façon différente, comment est-ce que cela crée l'expérience subjective de l'amour ou de la haine? Nous ne le savons pas.
Mais il faut bien résister quand même, Yuval Noah Harari, pour ne pas se laisser réduire à cette dimension algorithmique. Comment on fait dans un monde dominé par les données, dominé par Internet, par Google, pour préserver notre humanité, pour s'émanciper de tout cela?
Mais ce qu'il faut réaliser, il y a des arguments sur le sens du genre humain, le libre arbitre. Ça fait des millénaires qu'on en parle. Les philosophes argumentent sur ce point, en débattent. Ce qui est différent aujourd'hui, ce n'est pas la philosophie, c'est la technologie. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons la technologie de pouvoir hacker les esprits humains. On parle beaucoup de hackage, d'ordinateurs, de téléphones, des emails. Mais la grande révolution, c'est le hackage des êtres humains. De pouvoir rentrer dans l'esprit des êtres humains signifie construire un algorithme, c'est-à-dire un système extérieur qui me comprenne, moi, mieux que je me comprenne moi-même, mieux que je me comprends moi-même, et donc prédire mes décisions et manipuler mes désirs. Eh bien, pour hacker un être humain, on a besoin de trois choses.
Allons donc.
Une bonne compréhension de la biologie,
you need a lot of data,
beaucoup de données
and you need a lot
et
of computing power.
Beaucoup de puissance d'ordinateur.
Until today,
jusqu'à
nobody
aujourd'hui,
had that.
Personne n'avait cela.
Even if the KGB
même si
you
le KGB pouvait vous suivre 24 heures par jour,
le KGB
ou la Gestapo n'avait pas la compréhension de la biologie et
ils n'avaient
pas la puissance des ordinateurs.
But now,
mais maintenant, désormais,
we have it.
Nous l'avons, ou certaines grandes entreprises, certains gouvernements les possèdent. Nous sommes sur le point d'être capables de hacker des êtres humains.
Alors comment on résiste, Yuval?
Eh bien, il y a deux niveaux à prendre en compte. Sur le niveau individuel, la chose la plus importante, c'est de se connaître mieux que l'algorithme vous connaît. Vous savez, pendant des millénaires, depuis Socrate et Jésus et Bouddha, il y a toujours ces philosophes qui disent aux gens, connais-toi toi-même. Mais par le passé, à l'époque de Socrate, on n'avait pas vraiment de concurrence. Si vous ne réussissiez pas à faire l'effort de se connaître soi-même, vous restiez une boîte noire pour le reste de l'humanité. Mais aujourd'hui, il y a de la concurrence. Il y a toutes ces entreprises, tous ces gouvernements qui sont en train de vous hacker.
If they get to know et
s'ils vous connaissent, s'ils connaissent vos faiblesses mieux que vous connaissez vos propres faiblesses, à ce moment-là, c'est ce qu'ils vont utiliser pour vous manipuler.
La philosophie et la méditation que vous pratiquez, Yuval Noah Harari, ça pourrait être un remède global aux maux de notre humanité?
Non,
travailler au niveau individuel, par la méditation ou la philosophie, ou même par l'art ou la thérapie, c'est très important, plus que jamais auparavant, à cause de cette concurrence. Mais ça ne suffit pas. Pour résoudre un problème au niveau mondial, au niveau global, au niveau social, il ne faut pas simplement travailler sur soi, il faut s'organiser avec d'autres individus. Par exemple, pour réglementer la propriété des données.
On va reparler de données, de destin et de répétition avec vous, Yuval Noah Harari, juste après Shirley Bassey, tiens, accompagné des Propellerhead, History Repeating 1997. Vous êtes sur France Inter avec Yuval Noah Harari. Vous écoutez mon nom, évidemment.
The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On est quelque part entre le moine bouddhiste, le prix Nobel de mathématiques et le petit cousin surdoué. On en a tous un, pas bien grand, pas bien gros, pas beaucoup de cheveux. Il y a des yeux immenses qui vous fixent avec intensité derrière ces petites lunettes noires. L'historien et intellectuel Yuval Noah Harari, invité de Boomerang ce matin pour parler d'aujourd'hui et de demain. Le retour d'un certain conservatisme religieux aujourd'hui, partout. Quel sens est-ce que ça a pour vous? C'est une question que je voulais vous poser après la lecture de votre livre.
Well, my main, the biggest problem with the return to religious conservatism.
Le problème principal vers le conservatisme religieux, c'est que ça n'offre pas de solution aux problèmes majeurs auxquels nous faisons face. Si on réfléchit à ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que ça va faire au marché de l'emploi et à l'économie, si vous réfléchissez à des questions comme que faire avec les nouvelles compétences de la technologie, il n'y aura pas de réponse à ça. Cela grâce à la Bible, parce que les gens qui ont écrit la Bible il y a 2000 ans, aussi sages qu'ils l'étaient, ne savaient absolument rien de la génétique. Et ils en savaient encore moins au sujet de l'intelligence artificielle et des ordinateurs. Donc les réponses ne sont pas là-bas. Tout comme au 19e siècle, au cours de la révolution industrielle, on a vu la montée de nouvelles idéologies qui tentaient de résoudre les nouveaux problème du monde. Donc, de même au 21e siècle, les réponses vont venir, finalement, j'espère, de nouvelles idéologies, et non pas de tenter de revenir à des traditions anciennes.
À moins que le dataïsme soit une nouvelle religion.
On pourrait voir la création de nouvelles techno-religions, des religions fondées sur la technologie, qui, fondamentalement, pourrait promettre aux gens toutes les choses que les religions traditionnelles promettaient. Le bonheur, la prospérité, et même la vie éternelle. Mais ici, sur Terre, avec l'aide de la technologie, et non pas après la mort, avec l'aide de Dieu. Et on pourrait dire que même le marxisme était déjà une techno-religion qui promettait aux êtres humains le paradis sur Terre, avec l'aide de la technologie industrielle.
Et
ça n'a pas très bien fonctionné. Mais les gens vont toujours réessayer.
Vous savez ce qui m'angoisse dans votre pensée, Yuval Noah Harari, dans votre vision du monde, c'est cette projection qu'on pourrait vivre dans un monde où il n'y aurait plus aucune place pour le hasard, pour la surprise, pour le mystère.
Oh, mais il y a une place énorme pour la surprise et pour le mystère. En fait, nous en savons moins maintenant sur le futur proche que précédemment dans l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire, nous n'avons absolument aucune idée sur la façon dont le monde sera d'ici 20 ou 30 ans. Bien sûr, à travers l'histoire, on n'a jamais pu prédire l'avenir politique. Personne ne pouvait savoir ce que serait la situation politique à 20 ans de distance ou 30 ans de distance. Mais avant, dans l'histoire, il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas changer. Mais pas suffisamment rapidement. Par exemple, comme le marché de l'emploi. Si vous viviez au Moyen-Âge, peu importe qui serait roi à 30 ans de l'époque, la plupart des gens resteraient paysans, agriculteurs. Et on savait certainement que les structures familiales et les relations de genre et le corps humain seraient le même à 30 ou 40 ans de distance, comme celui d'aujourd'hui. Mais maintenant, lorsqu'on regarde l'avenir à 30 ans de distance, on n'a aucune certitude au sujet de rien. Nous n'avons aucune idée de ce que sera le marché du travail. Nous ne savons pas ce que les structures familiales seront. Et nous ne savons même pas à quoi ressemblera le corps humain. Ce qui est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire, nous n'avons aucune idée de ce qu'il faut enseigner aux jeunes. La plupart de ce qu'ils apprennent actuellement sera totalement non pertinent quand ils auront 30, 40 ou 50 ans.
En vérité, les humains ont toujours vécu à l'âge de la post-vérité. Homo sapiens est une espèce post-vérité dont le pouvoir suppose que l'on crée des fictions et qu'on y croit. Dès l'âge de pierre, des mythes qui se renforcent d'eux-mêmes ont servi à unir les collectivités humaines. En vérité, Homo sapiens a surtout conquis cette planète grâce à la faculté humaine unique de créer et de propager des fictions. Nous sommes les seuls mammifères capables de coopérer avec de nombreux individus parce que nous seuls pouvons inventer des fictions, les diffuser autour de nous et convaincre des millions d'autres d'y croire. Tant que tout le monde croit aux mêmes fictions, nous obéissons tous aux mêmes lois. À quelles lois est-ce que vous vous soumettez, vous, Yuval Noah Harari?
For me, maybe the most important.
Pour moi, peut-être la plus importante, c'est la capacité de dire la différence entre la réalité et la fiction. Les fictions sont extrêmement importantes. On ne peut pas organiser des gens sans des fictions partagées, des récits partagés. Et beaucoup d'entre ces récits sont bénéfiques. Même si vous pensez à quelque chose comme le football, on ne peut pas avoir 22 personnes en train de jouer au football à moins qu'ils ne soient d'accord sur le même récit, les mêmes règles qui régissent le football, même si c'est évident que c'est nous qui les avons inventées, ces règles. Regardez quelque chose comme la Coupe du Monde de football. Et c'est merveilleux, c'est étonnant. Il y a des gens qui sont de France, d'Argentine, du Japon, tous qui se précipitent vers la Russie pour jouer à un jeu ensemble. Et c'est basé sur le fait qu'ils acceptent tous le même récit. Le problème commence lorsque des gens oublient que finalement, c'est simplement un récit que nous avons inventé. Ils le prennent pour la réalité. Ils deviennent tellement attachés à ce récit qu'ils peuvent commencer à tuer d'autres personnes pour le bien de ce récit, au nom du récit, comme les voyous du football, les hooligans, ou comme des fanatiques religieux. Moi, je viens du Moyen-Orient. Et là, il y a des gens qui se tuent les uns les autres par millions en raison de leur attachement extrême à un récit, à une histoire que nous avons inventée.
Alors s'il est temps de réinventer le monde de demain, de quelle fiction est-ce que vous rêvez, vous, Yuval Noah Harari, pour le 21e siècle? De quelle fiction collective?
Oh, that's a difficult question.
Oh, question difficile.
Mais c'est la plus importante.
Yeah, nobody knows.
Personne ne le sait.
What is the
Personne
new
ne
story
sait ce que sera le nouveau récit
that can unite
qui pourrait
and benefit humankind
unir et être à l'avantage du genre humain au 21e siècle. Nous avons besoin des récits communs. Mais ces récits doivent nous servir et ne pas nous réduire en esclavage. C'est la raison pour laquelle il est tellement important d'être capable de faire la différence entre les récits et la réalité. Et le meilleur test, la meilleure expérience pour savoir ce qui est réel, c'est le test de la souffrance. Si vous voulez savoir si le héros d'un récit est une véritable entité ou simplement une fiction, il faut se demander, est-ce que ce héros peut souffrir? Une banque, une entreprise ne peut pas souffrir, ils n'ont pas d'esprit, ils ne sentent pas la tristesse ou la souffrance. Ce sont nos propres créations. Même chose avec nos nations. Même si une nation souffre d'une défaite lors d'une guerre, elle ne souffre pas véritablement, c'est simplement une métaphore. Parce que les nations n'ont pas d'esprit, n'ont pas de conscience, elles ne sentent rien. Mais les êtres humains et les animaux, les autres animaux, ce sont de véritables entités. Ils, elles, peuvent souffrir. Donc, quel que soit le récit que nous créerons, au 21e siècle, ces récits devraient être concentrés sur la réduction de la souffrance dans le monde et non pas se concentrer à servir une entité imaginaire comme un dieu ou une nation que nous avons inventée.
Merci infiniment Yuval Noah Harari d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci à votre interprète ce matin, le très prophétique Michel Zlotowski. Je rappelle que Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle sont publiés aux éditions Albin Michel. C'est passionnant, c'est galvanisant, c'est aussi un peu glaçant. Tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples on est croyant ou on feinte la première fois enfant. À moi-même de temps en temps. Que l'hiver soit aux amants. Je voudrais, pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Sa peau, oublier qu'on fut avant. Pour d'autres, un peu tremblant, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent. C'est mon cœur, c'est mon sang.
Simple de Vanessa Paradis, c'est l'heure des médias sur France Inter. Sonia de Villers, l'instant M.
On est là, Augustin. Salut, à demain.